Non, bonjour ou rebonjour, hein, suivant si on s'est vu ce matin ou pas. Donc voilà, moi je suis Nolwenn Kerrebel. En profession initiale, je suis infirmière au CHU, au CEGID en maladies infectieuses depuis une bonne quinzaine d'années. Et j'ai une deuxième casquette, une deuxième profession, parce que en fait, je me suis rendu compte à force d'être à parler de la sexualité avec les patients dans le cadre du suivi VIH ou dans le cadre des dépistages, etc., qu'on n'est absolument pas formé et que j'étais pas compétente forcément à des questions que je soulevais, à les écouter, à y répondre, etc. Donc j'ai souhaité passer à un DU, le DU de sexologue. Et donc depuis 2018 ou 2019, plus 2019 je crois, je suis donc sexologue diplômée et j'ai monté une consultation de sexologie sur la Cavale Blanche. Une consultation de sexologie publique parce que les soins de sexologie ne sont pas pris en charge, ne sont pas remboursés par la sécurité sociale. On commence tout juste à se dire en France que la psychologie, c'est quelque chose qui devrait être pris en considération. À vous dire, la sexo, on a encore du boulot. Du coup, pour moi, c'est important d'offrir que des soins de sexologie puissent être accessibles à tout le monde de façon gratuite. Donc, c'est le cas au CEGID. Voilà. Et aujourd'hui, je vais intervenir sur un sujet majeur qui est le sujet du consentement. On est tous d'accord que c'est un sujet qui est, merci, qui est souvent parlé, qui est souvent abordé dans plein de thématiques, surtout quand le consentement n'est pas respecté. Voilà, et là, on est dans le cadre des violences, on va le voir. Mais c'est un sujet qui est très très important à peut-être creuser un petit peu. Et un deuxième sujet qui devrait être abordé peut-être au moins autant que le consentement, c'est le désir. Parce qu'on va le voir, c'est dans l'éducation, pseudo-éducation à la sexualité qui n'est pas prodiguée dans les établissements scolaires et sur les différentes structures, c'est pas bien fait. Donc du coup, on parle de sexualité aux jeunes sans jamais employer les mots de désir ou de plaisir, et c'est pourtant pas des gros mots. Donc je pense que c'était important de remettre ça aussi aujourd'hui sur le tapis. Alors, on est d'accord que le consentement, c'est une condition sine qua non à tout acte sexuel. C'est le béaba, c'est indispensable, c'est essentiel. S'il n'y a pas de consentement, on n'est pas dans la sexualité, on est dans la violence. Et à ce moment-là, dans la violence, l'acte sexuel, la sexualité devient le moyen pour l'agresseur d'exercer la violence sur sa victime. On n'est pas dans une relation sexuelle, d'accord? Si on fait le parallèle avec, je prends une pelle, par exemple, pour planter un arbre. C'est un geste beau, magnifique, de planter un arbre, c'est symbolique, c'est la croissance, la vie, etc. Si cette pelle-là, cet outil, ce même outil, je l'utilise pour aller taper sur mon voisin, on est d'accord que ce n'est pas du jardinage, c'est de la violence. Et c'est pourtant le même outil, c'est la même chose qui est utilisée. Donc c'est exactement la même chose dans la sexualité. La sexualité peut devenir une arme, un moyen d'exercer sa domination sur une victime. Donc ça, c'était vraiment en préambule. Vous connaissez peut-être cette petite vidéo. Voilà, alors. On a entendu quelques réactions, ça fait sourire, ça fait rire. Moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire quand on veut aborder les questions. C'est limpide, etc. C'est clair. Donc là, le consentement, quand on a vu ça, on a exposé ça, ça paraît clair, ça paraît limpide, c'est simple. Alors pourquoi ça pose problème? Pourquoi ça pose problème? Parce que des fois, ce qui est compliqué, c'est soi-même se dire: est-ce que je consens? Pourquoi je consens et comment je fais pour savoir si je suis consentant ou pas? Déjà. Après, il y a le repérage du consentement chez l'autre. On va en parler après. En gros, moi, j'ai regardé dans le dictionnaire, consentir, c'est simplement ne pas s'opposer. Alors là, on est quand même au niveau ras des pâquerettes. Enfin, c'est quand même pas. Je m'oppose pas. Je donne mon accord, je ne m'oppose pas. Et dans le dictionnaire des synonymes, c'est pire. Admettre, acquiescer, dénier, donner carte blanche, permettre, se résoudre, se soumettre. Ce sont des synonymes du consentement dans le dictionnaire, dans la langue française. Ça me semble un peu limite quand il s'agit justement de, quand on parle de consentement éclairé, soi-disant, on a toutes les infos, on a de la communication et on a toutes les, la décision, la, toutes les capacités à prendre la décision. Donc, voilà, le consentement, je pense que c'est une notion qui est beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît et qui doit s'élaborer vraiment de façon étage par étage, étape par étape, et ça va s'élaborer en fonction de critères qui sont intimes, qui sont intrinsèques, qui sont propres à soi-même, et aussi de critères sociaux, de critères de référence à des normes qui vont influencer en fait nos choix, nos décisions. Et donc, il est parfois difficile, dans ce qu'on disait tout à l'heure, de repérer le consentement chez soi-même et également chez le partenaire. Et en fait, ce consentement, ça nécessite énormément de communication. Et là, la difficulté, c'est qu'il peut y avoir de la communication verbale ou de la communication non verbale, et qu'il faut vraiment être attentif à ça chez soi-même et chez les autres. On a vu, ça a été dit un petit peu dans la petite vidéo sur la tasse de thé, c'est donc le consentement donc peut s'exprimer par des mots. On dit non, on dit oui, on dit non. Voilà. Par des gestes, des attitudes, des écrits. Enfin, il y a diverses manières d'exprimer son consentement ou son non-consentement. Et le fait d'être dans le silence, ça ne vaut pas acceptation, bien sûr. Le fait de ne pas dire non, ça ne vaut pas acceptation. Ça se voit beaucoup dans les agressions sexuelles, dans les viols, en fait, où la victime est dans un état de sidération. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de ça. En fait, la violence fait une telle effraction dans le psychisme qu'elle vient absolument paralyser la victime et qu'elle est incapable. C'est le lapin au milieu des phares. Vous savez, vous roulez sur une route la nuit et le lapin, là, il est coincé. En fait, la victime est dans un état de sidération totale qu'elle ne peut plus bouger, elle ne peut pas exprimer son refus, son consentement. Et ça va leur être reproché, hein, quand il y a des procès ou pas. C'est de toute façon, tu n'avais qu'à partir, tu n'avais qu'à crier, tu n'avais qu'à te défendre. Ben non, ce n'est pas possible. Et donc voilà, le silence ne vaut pas acceptation. Hein, c'est pas parce que alors on parle dans le langage classique, on dit qui ne dit mot consent. Ben non, en fait. Le consentement donc est uniquement temporaire et peut être révoqué à tout moment. C'était bien dit dans la tasse de thé, c'est-à-dire qu'on commence à avoir une relation intime, on commence à se rapprocher, tout ça, et puis à un moment, bah non, j'ai plus envie, je veux plus aller plus loin, j'ai changé d'avis, etc. Donc ça, c'est important aussi de pouvoir le dire, se le dire, et que les personnes, les jeunes puissent, enfin les jeunes ou les moins jeunes, hein, puissent aussi se le dire, s'autoriser à dire non alors qu'on a commencé. Les situations qu'on rencontre régulièrement au Cégide, par exemple, c'est des personnes qui, en soirée, avec un petit peu d'alcool ou de produits, voilà, et commencent à se rapprocher de quelqu'un, il y a une relation qui se noue, un petit flirt, voilà, et puis, la personne ne s'autorise pas à arrêter, comme si un processus s'était mis en place et qu'il devait aller jusqu'au bout. Cette personne ne va pas à un moment s'autoriser à dire bah non, je veux que ça s'arrête parce que on va peut-être la juger, la traiter d'allumeuse ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on entend régulièrement. Hein. Et en fait, c'est bah non, je voulais pas. Enfin, j'étais d'accord de m'amuser un peu, mais je voulais pas une relation complète, je voulais pas une pénétration, je voulais pas ceci, je voulais pas cela. Et finalement, c'est allé quand même. Le consentement, bien sûr, doit être mutuel. Et puis, il peut ne concerner qu'un acte, pas tous les actes. C'est-à-dire que une relation sexuelle, on peut consentir à une relation sexuelle, mais une relation sexuelle, c'est pas un organe dans un autre organe, c'est pas des organes qui se frottent, c'est pas, enfin voilà, il peut y avoir des strates, et il faut que ce soit exprimé, expliqué et respecté. Alors là, je trouve ça, c'est une affiche que j'ai trouvée sur internet. Enfin, c'est voilà, seul un oui est un oui, d'accord. Mais ce qui est important, c'est de se dire ça à soi aussi. C'est-à-dire que si soi-même, on se dit, est-ce que j'ai réellement envie? Est-ce que, il faut réussir à se poser les bonnes questions soi-même et comprendre pourquoi on consent. Être capable de s'écouter. Et je vais vous donner un exemple. Un exemple d'une jeune fille qu'on avait reçue au centre de dépistage, qui était venue, 17 ans. C'était son premier rapport sexuel la veille. Son copain aussi, même âge, ils étaient ensemble depuis 2-3 mois. Voilà. Et, premier rapport sexuel avec préservatif. Première fois pour tous les deux. Et le préservatif s'est déchiré. Ça arrive. Voilà. Ils arrivent au centre de dépistage. Ils étaient un peu paniqués. Ils avaient peur d'avoir attrapé une maladie sexuellement transmissible. Donc je les ai rassurés en disant première fois pour tous les deux, ça va. On est plutôt tranquille de ce côté-là. Et par contre, je demande à la jeune fille si elle a une contraception. Elle me dit que non. Donc je lui propose une pilule du lendemain. On était dans les délais, c'était raccord. On propose la pilule du lendemain et elle me dit non, j'ai pas besoin. Alors, j'insiste un peu, pensant qu'elle n'a pas eu toutes les infos, qu'elle n'a pas pensé à ce risque-là, etc. J'insiste sur la pilule le lendemain, et puis finalement, au bout de 2-3 fois, elle finit, non, j'ai pas besoin, parce qu'en fait, le préservatif a craqué pendant la pénétration anale. 17 ans. Premier rapport sexuel pour tous les deux. Donc, j'ai interrogé le consentement. Je demandais, est-ce que vous étiez consentant ? Oui, on était consentant. Mais est-ce qu'il y avait du désir de cette pratique derrière, sur un premier rapport sexuel à 17 ans ? Je ne suis pas sûre. Et je ne suis pas sûre parce que, en fait, là, ça rejoint un petit peu une conférence qu'on avait faite dans un lundi de la santé sur la pornographie. En fait, ces jeunes ont simplement appliqué un modèle qu'ils avaient appris. C'est-à-dire qu'en regardant un film pornographique et quand on n'a que ça comme référence pour faire et construire son identité, sa sexualité, eh bien, on va appliquer ce modèle-là. Et dans un film porno, vous avez fellation, pénétration vaginale, pénétration anale. Hein, c'est le mode d'emploi comme ça. Et donc, du coup, comment savoir si on a réellement du consentement ? Oui, mais du désir pour cette pratique. Ou autre chose, enfin, c'est un exemple parmi d'autres. Alors, pourquoi, effectivement, est-ce qu'on peut consentir ? Quelles sont les raisons qui peuvent nous pousser à consentir ? Eh bien, la pression sociale, la pression de conformité, faire comme les autres, la peur du jugement, qu'est-ce qu'on va dire, qu'est-ce qu'il va ou qu'est-ce qu'elle va, ou comment est-ce que je vais être reçue si je dis non, si je ne suis pas d'accord, de quoi on va me traiter, etc. Les injonctions sociales, il faut, c'est comme ça, je dois. Le rapport à la norme, bien sûr, toujours, qui est compliqué. Et puis, on a tous un rapport à la norme qui est différent. On sait tous qu'il faut rouler à 50 km/h en ville. Est-ce qu'on le fait tous ? Non. Parce que des fois, ouais, mais là, c'est pas grave, je suis pressée. Voilà. Donc, il y a des fois où on va transgresser une norme ou des fois où on est très, très raccord à cette norme-là. Les fausses croyances, effectivement, aussi, qui sont beaucoup d'idées reçues, beaucoup de fausses croyances qui tournent autour de la sexualité. Des apprentissages qu'on aura fait, par exemple, avec l'influence de la pornographie, qui vont nous montrer que c'est un modèle et que c'est comme ça qu'il faut faire. Et puis, la pression du partenaire. Ça, c'est quelque chose qu'on entend aussi. Si tu m'aimes, si tu veux pas, c'est que tu m'aimes pas. Enfin, voilà, des choses comme ça. La peur du rejet, la peur de l'abandon, etc. Donc, tout ça, ce sont des choses qui vont nous pousser à consentir, alors qu'on va être dans le bof, je sais pas, enfin, c'est pas le oui franc. Voilà. Mais on va se dire, ok, on va y aller parce que ceci, cela, tout ce qu'on a listé. Et donc, le désir dans tout ça. Moi, personnellement, en tant que femme et en tant que sexologue, je pense que ce qui devrait motiver réellement le consentement à donner son accord, c'est le fait de dire pas seulement je ne m'oppose pas, mais j'ai envie de le faire parce qu'on a envie. Et comment savoir si on a envie ? On nous parle souvent de libido. Alors déjà, je trouve qu'il faut remettre les choses un peu à leur place au niveau vocabulaire. La libido, ça ne veut rien dire. C'est un terme un peu fourre-tout, c'est un terme générique. C'est Freud essentiellement qui avait commencé à parler de ça. Et souvent, les gens viennent en disant j'ai des problèmes de libido, j'ai plus de libido. La libido, c'est bien de pouvoir catégoriser un petit peu les choses à l'intérieur. Donc, généralement, dans la libido, on va mettre le désir et l'excitation. Mais ce n'est pas la même chose, le désir et l'excitation. Le désir, c'est mental. C'est une anticipation mentale, c'est psychique, c'est cérébral. Et ça va pouvoir être le moteur de l'excitation. Alors que l'excitation, c'est des manifestations physiques et corporelles. Voilà, donc c'est ce qu'on ressent physiquement. Et ce sont des réactions physiologiques, automatiques, réflexes, qui sont dues à une réponse à un stimulus. Un stimulus, je ne sais jamais, c'est italien. Un stimulus de stimuli. D'accord. C'est ça, merci, j'essaie de retenir. Donc déjà, faire la différence entre désir mental et excitation corporelle. Donc l'excitation sexuelle, ce sont des manifestations corporelles, on a dit, en réponse à un ou des stimuli, je l'avais bien écrit, voilà. Et ces stimuli peuvent être psychiques, ça peut être l'imaginaire. Alors, moi, j'aime pas parler de fantasmes, parce que souvent, quand on dit fantasme, on pense que c'est des connotations un peu hard, un peu des trucs un peu pas conventionnels ou des choses comme ça. Et parfois, les gens disent « non, mais moi, j'ai pas de fantasme ». Donc moi, je préfère parler d'imaginaire et d'imaginaire érotique, parce que ça, on a tous un imaginaire érotique. On a tous des pensées, plus ou moins, mais là, l'imaginaire érotique, c'est un peu plus général et les gens comprennent mieux de quoi on parle. Donc ça peut être aussi des souvenirs de quelque chose qu'on a vécu. Ça peut être des stimuli corporels aussi, hein, des caresses, des pressions, des frottements, etc. Donc là, c'est vraiment un toucher. Et donc, tous ces stimuli là, font appel à nos cinq sens. Parce que le fait de la vue aussi, le fait de voir une image, un corps, quelque chose peut développer une excitation et du désir. L'ouïe, l'odorat. Imaginez, vous croisez dans la rue, si ça vous est déjà arrivé, vous croisez quelqu'un dans la rue qui a le même parfum que votre partenaire habituel. Est-ce que ça ne vous déclenche pas des petites choses des fois? Non? Bon, je suis la seule. Ok. Le goût, le toucher, enfin des choses comme ça. Voilà, tous les sens peuvent être mis en jeu pour pouvoir déclencher cette excitation corporelle. Ce qui est important aussi de savoir, c'est que l'excitation corporelle, c'est un réflexe. C'est un réflexe qui est indépendant de notre cognition, de notre volonté. C'est vraiment, on vous chatouille le bout du nez avec une plume, vous allez avoir le réflexe d'éternuer. Et bien là, c'est pareil. Les signes d'excitation sexuelle, c'est du réflexe. Et c'est ce qui est important, par exemple, d'expliquer aux personnes qui sont victimes d'une agression ou d'une agression sexuelle ou d'un viol, et qui vont avoir qui vont avoir ressenti du plaisir. Et je peux vous assurer, quand vous avez quelqu'un comme ça en face de vous, qui doute du coup d'avoir été victime d'une agression parce qu'elle a ressenti du plaisir, c'est important de lui expliquer que son corps a réagi à une stimulation et que c'est un réflexe. Et que sa volonté n'était pas d'avoir cette relation sexuelle et de la déculpabiliser vis-à-vis de ça. Ça, c'est très, très, très important. On peut être victime d'un viol et avoir un orgasme pendant ce viol. Néanmoins, on n'était pas d'accord, on n'était pas consentant. C'est un viol. C'est pas parce qu'on a pris du plaisir qu'on était d'accord. Le désir, par contre, c'est un état psychologique. Voilà, c'est vraiment l'anticipation mentale d'un état d'excitation sexuelle qu'on a déjà vécu, qu'on a envie de reproduire, etc. Et donc, c'est aussi la volonté, le désir d'avoir une activité sexuelle. Ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être tout seul également. Mais en tout cas, ça implique d'avoir une vision agréable et positive de la sexualité et des expériences sexuelles. Donc ça veut dire qu'il faut déjà avoir une certaine éducation, une certaine vision des choses positive vis-à-vis de tout ça. Et il peut y avoir de nombreuses expressions au désir, en fait. Hein. Et, il peut y avoir un désir sexuel, d'accord, mais il peut y avoir avant cela aussi simplement un désir affectif. Le désir affectif, ça va être les sentiments, les émotions, le partage, l'envie de vivre un moment à deux. Ou à plusieurs, mais de vivre ça ensemble, de partager. Hein. Le désir d'intimité, ça va être la recherche de proximité, la tendresse, les câlins. On peut juste désirer cette tendresse, ces câlins, cette proximité, le fait d'être vraiment très proche de quelqu'un, sans avoir un désir sexuel derrière. Et c'est pour ça que dans le consentement, des fois, c'est compliqué, parce que si l'un dit « bah oui, moi, je suis d'accord », enfin, ou n'exprime pas forcément bien, mais dit bah, « moi, j'ai juste du désir d'intimité », et que l'autre a un désir sexuel avec pénétration, c'est là que ça bloque, en fait. Et le désir sexuel, eh bien, c'est une recherche d'excitation sexuelle corporelle et de sensations physiques. J'ai mis le désir de certaines stimulations et de certaines pratiques. Mais le désir sexuel, là aussi, on peut décomposer. Il peut y avoir un désir sexuel pour une pratique, mais pas toutes les pratiques. On peut avoir un désir sexuel pour des caresses appuyées, pour une masturbation réciproque, mais on peut très bien ne pas avoir un désir sexuel pour une pénétration. On peut avoir un désir sexuel pour du sexe oral, mais pas pour des pénétrations. Donc c'est important de bien se poser soi-même les bonnes questions pour pouvoir les communiquer après à l'autre. Quand souvent, quand on reçoit des gens sur des personnes en consultation avec des troubles du désir, ce qui est important, c'est de lutter contre les fausses croyances hein, vis-à-vis de ça, vis-à-vis du désir. Et les fausses croyances, elles circulent dans la société en général. Alors, on pense que le désir, ça va de soi, que c'est quelque chose qui est naturel. Non, pas du tout. Déjà, le désir, il nécessite deux choses. Il nécessite de la distance, c'est-à-dire qu'on ne peut désirer que ce qu'on n'a pas. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Noël arrive, vous avez commandé le dernier CD, non maintenant tout est numérisé, mais je sais pas, un iPhone, un truc dingue, voilà. Et vous l'espérez, vous l'attendez, vous avez écrit votre lettre au Père Noël, vous avez été très sage, vous attendez très fort, vous désirez beaucoup cette chose, cet objet. Et puis ça y est, Noël arrive, vous l'avez, Et là, je dis, oh, bouf, quoi. Ça vous est déjà arrivé? Voilà. Donc, mais vous avez pourtant énormément fantasmé, énormément désiré cette chose-là. Hein, mais donc, c'est parce que vous ne l'aviez pas. On ne peut désirer que ce qu'on n'a pas. On ne peut pas désirer quelque chose qu'on a sous la main en permanence. C'est pour ça que des fois, dans les couples, avec la routine, tout ça, machin, on vit ensemble, on dort ensemble tous les soirs, voilà, on se réveille tous les matins ensemble, etc. Des troubles du désir, c'est légitime, on va dire. Et il nécessite aussi de la disponibilité, ce désir sexuel. Parce que quand on a passé sa journée, alors on est dans une société où il y a énormément d'injonctions. Hein. C'est-à-dire qu'il faut faire du sport, il faut manger 5 fruits et légumes, il ne faut pas fumer, il ne faut pas boire d'alcool, il faut manger bio, local, ouais, c'est bien, il faut aller au vélo, là. Il y a énormément d'injonctions, puis il faut être performant partout. Il faut être un super parent, il faut être un super professionnel, il faut être un super acteur associatif, etc. Et, tout ça. Et 22h30, là, on se met au lit, instantanément, il faut devenir une bête de sexe. C'est... On n'a pas forcément l'espace, on n'a pas forcément la disponibilité pour ça. Voilà. Et donc, moi, j'aime beaucoup une sexologue américaine, Hélène Kaplan, qui... Elle date des années 80, 70-80, mais c'est toujours d'actualité, où elle parle, elle, du désir comme étant de la disponibilité érotique. Et c'est vraiment ça, il faut être disponible aussi dans sa tête. Si on est préoccupé parce que, justement, on n'a pas fait la déclaration d'impôt, parce qu'il y a les gamins qui ont ceci, enfin, voilà, on ne peut pas être disponible. Et si on n'est pas disponible, on ne peut pas être désirant. Hein. Qu'est-ce qu'on a comme idée reçue encore sur le désir? On pense qu'il est lié au sentiment. Et alors ça, c'est très typique dans les consultations pour des troubles du désir. On voit les conflits dans les couples que ça peut, les conflits que ça peut engendrer au niveau des couples. C'est-à-dire qu'on pense que si on aime, on doit désirer. Mais pas du tout. On peut être très amoureux de quelqu'un et n'avoir aucun désir et aucune excitation sexuelle avec cette personne. Et par contre, vous pouvez croiser quelqu'un dans la rue. Vous ne savez pas pourquoi, vous ne l'aimez pas, vous ne savez pas comment il s'appelle, tout ça. Et puis, cette personne, il y a quelque chose qui se fait au niveau attirance, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas définir, et il peut y avoir du désir qui se met en place pour ça. Voilà. Donc, il n'y a aucune corrélation entre les sentiments et le désir. C'est toujours une histoire de dosage, le désir, parce que, en gros, quand il y a des gens qui ont beaucoup de désir et d'autres qui n'ont pas beaucoup de désir. Et la personne qui est en... Mais c'est par rapport à une norme, quoi, en fait. Parce que si, dans un couple, par exemple, il y a du désir deux fois par an, et que tous les deux ont envie deux fois par an, il faut se mettre synchro, par contre, mais c'est pas grave, parce qu'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de déséquilibre. Maintenant, si un a envie deux fois par an et l'autre a envie deux fois par jour, là, ça va être compliqué. Et en gros, généralement, la personne qui va venir me voir en consultation, c'est la personne qui a envie deux fois par an et qui va culpabiliser pas pour elle. Elle, ça va, parce qu'elle a très peu envie. Donc, son envie, elle a assouvi, surtout l'autre, il est prêt, dès qu'il y a le moindre signe de désir. Mais en fait, elle va souffrir par culpabilité vis-à-vis de la norme, parce que là aussi, les normes statistiques disent qu'il faut avoir 2,5 rapports par semaine. Enfin, voilà. Et donc, du coup, c'est toujours par rapport à cette norme, à ce positionnement de trop, de pas assez, etc. Voilà. Et il y a donc souffrance, j'ai noté, s'il n'y a pas de congruence entre les partenaires ou entre ce que l'on pense être normal comme dosage du désir. Quoi, en fait. On pense aussi que le désir est spontané, naturel. Voilà. Non, ce n'est pas vrai. Le désir doit se rechercher. Le désir doit s'entretenir. Le désir doit se cultiver. Alors, je n'ai pas pour habitude de citer Johnny Hallyday, mais il faut avoir l'envie d'avoir envie. Vraiment. Voilà. Ouais, ça se travaille. Et souvent, voilà, quand je reçois des gens en consultation pour des troubles du désir, ils viennent là et ils me disent rendez-moi ma libido. Voilà. Ben non, je ne suis pas la fée clochette. Et donc on ne peut pas. Voilà. C'est vraiment, il faut avoir l'envie d'avoir envie. Il faut aller rechercher ce désir-là. Ça se travaille, tout ça. Et puis. Un truc aussi qui marche bien, c'est-à-dire que de commencer, c'est vraiment mettre un cercle vertueux. C'est-à-dire que quand on commence à désirer un peu, eh ben, en face, ça va répondre, en fait. Et du coup, se sentir désiré aussi, ça peut conduire à être désirant. Voilà. Parce qu'on voit qu'il y a de la réponse dans l'interaction, etc. Et ça, c'est quelque chose qui marche bien. Mais il faut le cultiver, il faut le travailler, tout ça. En gros, pour pouvoir avoir une sexualité heureuse, alors on dit souvent sexualité épanouie. Voilà. Moi, j'aime bien le terme sexualité heureuse. Parce que la sexualité épanouie, ça sous-entend qu'il faut avoir plein de rapports sexuels dans tous les sens, avec plein de partenaires différents. Enfin, voilà, y a cette connotation derrière et que moi, ça ne me convient pas. Donc, une sexualité qui soit heureuse, c'est-à-dire qui soit bien vécue, surtout, qui nous satisfasse essentiellement. Une sexualité heureuse et respectueuse. Respectueuse, j'entends, de soi et des autres. Donc, il faut être à l'écoute des trois dimensions de la sexualité. Et ça, c'est quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire que la sexualité se vit de façon biologique, corporelle, dans notre corps. Mais avant tout, il y a le moteur du psychisme. Le premier organe sexuel, c'est le cerveau. Il ne faut pas l'oublier. Et également une dimension sociale, parce qu'on apprend à être un être sexué, on ne naît pas un être sexué, on le devient, on apprend, en fonction aussi des critères sociaux et du monde dans lequel on est éduqué. Et donc, savoir être à l'écoute de ces trois dimensions-là, être conscient de ces trois dimensions-là, et savoir être à l'écoute donc, du coup, de son désir, de son psychisme, de son imaginaire, tenter d'y avoir accès, ne pas refouler, ne pas se dire qu'on est anormal si on a des idées, voilà, non, au contraire. Savoir être à l'écoute de son corps, des signaux qu'il nous envoie ou pas. Voilà. Et puis aussi la même chose de ses partenaires. Être à l'écoute donc des partenaires dans leur désir, dans l'expression de leur désir ou de pas désir justement, de leur corps, des communications verbales ou non verbales qui peuvent nous communiquer. Mais tout ça, effectivement, pour pouvoir arriver à cette sexualité heureuse, il faudrait qu'on puisse en parler. Parce que là, on en parle entre nous, comme ça, ça va. Mais c'est quelque chose, ça, qui devrait faire partie, à mon sens, de l'éducation à la sexualité. Voilà. Or, l'éducation à la sexualité, un jeune, en gros, qui sort de terminale aujourd'hui, si une fois on lui a parlé des IST, une fois on lui a parlé d'un risque de grossesse, on leur parle du consentement, mais c'est pour dire attention, vous allez vous faire violer. Donc, du coup, il y a un manque, quand même, quelque part. Et du coup, cette éducation à la sexualité devrait être faite dès la petite enfance. Il ne faut pas attendre qu'ils aient 15 ans pour leur dire « viens, il faut qu'on parle d'un truc ». Ça commence bien avant. Dès la petite enfance, elle devrait comporter donc une vision positive et respectueuse de la sexualité. Plusieurs séances effectivement par an avec tous ces thèmes-là à aborder, c'est-à-dire qu'on ne parle pas que des risques de la sexualité, mais on parle aussi forcément de consentement, de désir, de plaisir, des choses comme ça. Et en France, il y a une loi, bien sûr, vous êtes sensibilisés, je pense que tout le monde le sait, depuis 2001, mais qui n'est pas du tout appliquée. Et il y a des modèles qui existent aussi dans d'autres pays. Il y a le modèle québécois, vous allez sur le site du Québec, éducation et sexualité, tout le déroulé est là. Donc on ne va pas réinventer l'eau chaude, ça existe déjà. Mais il faudrait pouvoir l'appliquer, tout simplement. Mais donc pour pouvoir, je pense que pour lutter contre les violences sexuelles, contre les difficultés dont on a parlé là, il faudrait déjà que cette loi soit appliquée de façon globale. Voilà, je vous remercie pour votre écoute.
Merci Nolwenn. Est-ce qu'il y a des questions ? Une personne a un rapport sexuel. On demande si elle a envie. Et elle répond, tu n'as qu'à vérifier. Est-ce une réponse ?
C'est une invitation. Mais c'est. Alors là, j'imagine que la réponse attendue, c'est est-ce qu'il y a de l'excitation ? Mais l'excitation, si vous avez bien suivi, ce n'est pas du désir. Mais voilà. Après, c'est compliqué comme question.
C'est un cas d'école.
Ouais, c'est-à-dire que le partenaire va se demander là plutôt si on est dans l'engagement non verbal ou corporel ou voilà. C'est à double tranchant hein, parce que pour aller vérifier, il faut s'approcher de près, voire très près, et si la réponse est non, enfin c'est ouais. Mais ça dépend. Si c'est avec un partenaire que vous connaissez bien, que ça peut être un jeu, enfin c'est au cas par cas. On ne peut pas répondre d'une façon générale à ça. Hein. Par contre, lors d'une intervention qu'on avait faite à l'IFAC là, il y a quelques semaines, on a passé la tasse de thé. Et à l'inverse, on a eu une question après dans la salle, une jeune fille que j'ai pris après un entretien individuel même, qui me dit, mais quand on dit non et que l'autre insiste quand même et que finalement, bah, on laisse tomber, est-ce que c'est une agression ? Une question qui se pose régulièrement, c'est ça. Je dis non, mais par pression, du coup, à la fin, pour avoir la paix, je finis par accepter. Ça, oui, là on est plus dans l'agression. Ouais.
C'est sur la question plutôt du viol conjugal. Comment, je ne sais pas comment vous aborderiez ça en consultation.
Déjà, si la personne vient en consultation, c'est qu'elle a conscience.
Oui, alors moi, elle vient en consultation de médecine générale. C'est ouais. pas, on n'est ah, pas oui. en consultation de sexologie. Quoi. Pour faire émerger quoi.
Ah oui, pour faire émerger la question du viol conjugal. Peut-être en parlant, je sais pas, de la fréquence des rapports. Est-ce que vous avez toujours envie? Est-ce que vous êtes toujours d'accord? Est-ce que il n'y a pas une pression? Est-ce qu'il n'y a pas une Si votre partenaire vous stimule et que vous n'avez pas envie, comment ça se passe? Enfin, mais là, on est quand même dans des questions en médecine générale qui sont un peu développées. Alors déjà, en médecine générale, y a Solène a parlé de ces pépites là. C'est des médecins qui disent bon, il faut parler de la sexualité, et qui vont vous dire en entretien, bon alors au niveau de la sexualité, là, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà, ça dépend. Il y a la manière de poser la question, en fait. Pour paraître moins brutal sur une question en médecine générale comme ça, sur un entretien où vous screenez plein de choses, il y a un mot qui est pas mal. Moi, avant de parler de sexualité, je parle d'intimité, par exemple. Est-ce que sur le plan intime, tout va bien pour vous? Est-ce que vous avez déjà rencontré ou est-ce que vous rencontrez des difficultés sur le plan intime? Voilà. De quel ordre, avec votre partenaire sans, enfin, voilà. En détricotant comme ça petit à petit.
Bonjour. J'avais une question, notamment sur la contraception avec le préservatif. En fait, on entend souvent aussi la pression de l'homme qui dit « Oh non, ça, j'aime pas, oh, etc. » Et en fait, certaines femmes finissent par craquer en disant « Bon, bah, ok, on le met pas. » Ouais. Donc, il y a cette action-là. Ouais. Ou alors, l'action aussi, mais c'est un peu différent. Et j'aimerais savoir dans quelle catégorie on peut catégoriser ça. C'est lorsque l'homme met le préservatif et au cours du rapport, l'enlève sans prévenir sa partenaire. Voilà, merci.
Pour le premier cas, déjà, la personne qui ne veut pas mettre de préservatif, bon, il y a l'utilisation du préservatif interne. C'est-à-dire de dire au partenaire, bon, ok, tu ne veux pas le mettre, moi je le mets. Point. Ça peut être une solution. Effectivement, si le partenaire, après, enlève le partenaire au cours du rapport, là, c'est plus... Alors, on n'est pas dans, je pense pas, on n'est pas dans l'agression sexuelle tout ça, mais enfin, il y a quelque chose qui a été déterminé entre les deux et qui n'est pas respecté. C'est des choses qu'on entend de temps en temps. Ouais.
Nolwenn, je vais revenir sur la partie désir. Je vais vous parler de l'été indien. comment évolue, parce que je crois qu'il doit y avoir ou pas des préconçus. Comment évolue désir et excitation avec l'âge, avec le vieillissement?
Alors, ça c'est une bonne question. En fait, tout ça vieillit, comme les corps, le désir, la motivation, l'excitation, tout ça, ça vieillit aussi. Déjà, il y a un truc qui est important à savoir, c'est que la sexualité, ça ne s'arrête pas avec l'âge, bien entendu, ça va évoluer. On n'a pas les mêmes capacités physiques et la même motivation à 20 ans. On ne fait pas un marathon à 20 ans comme on le fait à 50 ou à 70. Donc c'est pareil dans la sexualité. Mais par contre, la bonne nouvelle, c'est que, plus on pratique, mieux ça se passe. Donc il ne faut surtout pas arrêter sa vie sexuelle. Ce qui se passe par exemple chez on va avoir deux catégories. Alors on va parler des personnes donc, avec pénis, prostate, et là on va avoir un taux, et testicules qui ont un taux de testostérone qui va baisser de façon très très progressive à partir de 30 ans. On commence à perdre la testostérone à partir de 30 ans de façon régulière. Et du coup, l'impact du vieillissement va se ressentir de façon moins brutale que chez les personnes donc avec des ovaires et des vagins, où là, ça arrive de façon un peu plus brutale au moment de la ménopause. Les ovaires vont arrêter leur fonction endocrinienne, leur fonction donc hormonale, et ça va impacter beaucoup au niveau de la muqueuse vaginale, ce qui va provoquer souvent des problèmes de lubrification et d'excitation. Mais ça continue à fonctionner. C'est-à-dire que, par exemple, une femme qui, à 20 ans, va lubrifier, avec donc, des signes d'excitation sexuelle vraiment très forts, va lubrifier en 10-20 secondes, peut-être qu'au moment de la ménopause, à 50-55 ans, ça va mettre 10 minutes, un quart d'heure. Voilà. Souvent, ce qu'on rencontre comme difficulté, c'est que, si on parle d'un... Enfin, ce que je vois régulièrement en consultation, ça va être un couple hétéro, hein, voilà, où, à ce moment-là, le partenaire commence aussi à ressentir des difficultés érectiles, et quand il a, lui, une érection, eh bien, il va falloir aller vite parce qu'il a peur de la perdre. Alors qu'elle, à côté, en face, elle a besoin de plus de stimulation, plus de temps d'excitation. Et souvent, c'est ce qui peut conduire à des difficultés. Parce que là, on n'est pas synchro, quoi, en fait, du tout. En termes de désir, le désir ne s'arrête pas du tout, puisque c'est uniquement psychique. Voilà. Donc il peut y avoir des adaptations à faire au niveau corporel, mais le désir reste présent, même avec le vieillissement. Il n'y a pas de... là-dessus.
Bonjour. Nous, on accompagne des personnes atteintes de troubles du spectre autistique. Donc la vidéo sur le thé, elle est super. Nous, on la comprend bien, mais on sait qu'ils ne comprennent pas du tout ce genre d'humour. Est-ce que vous avez des astuces ou d'autres films comme ça sur lesquels on pourrait les amener au niveau du consentement, désir, tout ça ?
Alors, j'ai une petite... comme une planche de BD, en fait. C'est le consentement expliqué aux enfants et entre guillemets et aux autres et aux grands, je crois. Voilà. Et c'est il y a des petits bonhommes symbolisés qui sont pas mal. Je l'ai sur ma clé USB, mais j'ai pas ma clé USB sur moi. Donc si vous venez me voir tout à l'heure, je peux vous le montrer sur le stand du Cégide. J'ai un ordinateur, je peux vous le montrer tout à l'heure.
Et par ailleurs, à l'issue du séminaire, normalement j'ai toutes vos adresses mail. Je vous adresserai un petit mail d'ici 10-15 jours avec un certain nombre d'informations complémentaires et on pourra peut-être joindre la BD si tu en es d'accord, Nolwenn.
Ah oui, c'est pas du tout moi qui l'ai. Mais je l'ai utilisé ça avec une jeune fille qui a des troubles cognitifs et ça marche bien.
Bon, eh bien merci Nolwenn.
Merci.